plein de l'Esprit-Saint et rempli de l'Esprit-Saint. Nous trouvons dans les Écritures deux expressions en rapport étroit avec les dernières questions que nous nous sommes posées, savoir « plein de l'Esprit-Saint » et « rempli de l'Esprit-Saint ». Ces deux expressions sont très proches et on les confond souvent. Pourtant, elles ne sont pas identiques. Il n'est dit que quatre fois dans l'Écriture que quelqu'un était plein de l'Esprit-Saint, soit en Luc 4, verset 1.
Or Jésus, plein de l'Esprit-Saint, s'en retourna au Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert.
En Actes 6, verset 3 et 5.
Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit-Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. Et ce discours plut à toute la multitude, et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit-Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas.
En Actes 7, verset 55.
Mais lui, étant plein de l'Esprit-Saint, et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.
Et en Actes 11, verset 24.
Il était homme de bien et plein de l'Esprit-Saint et de foi.
Le premier passage parle du Seigneur Jésus, lui auquel Dieu n'avait pas donné l'Esprit par mesure, Jean 3, verset 34, était en fait plein de l'Esprit-Saint.
Jean 3, verset 34, « Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit par mesure. »
Mais cela est aussi dit d'Étienne et de Barnabas en Actes 6, verset 3. Les apôtres disent à la multitude des disciples de choisir des hommes pleins de l'Esprit-Saint. Il est donc manifeste que cette expression ne fait pas allusion à un état passager, bien que, naturellement, il ne soit pas non plus dit que Barnabas, par exemple, soit resté ainsi jusqu'à sa mort. Cette expression caractérise un état spirituel de l'âme dans lequel rien n'entrave l'action du Saint-Esprit et dans lequel tous les sentiments, pensées, paroles et actes sont constamment contrôlés par le Saint-Esprit. Quelle glorieuse condition ! D'Étienne, il est aussi dit ensuite qu'il était plein de foi et plein de grâce et de puissance, faisant parmi le peuple des prodiges et de grands miracles, et plus loin, que les Juifs ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ses contradicteurs virent son visage comme le visage d'un ange. Acte 6, verset 15.
Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange.
Et à la fin de son grand et magnifique discours, avant d'être lapidé, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. De Barnabas, dont le nom signifie « fils de consolation », il est mentionné qu'il vendit un champ et en apporta la valeur aux apôtres. Acte 4, versets 36 et 37.
Et Joseph, qui, par les apôtres, fut surnommé Barnabas, ce qui, étant interprété et fils de consolation, lévite et cypriote de naissance, ayant une terre, la vendit et en apporta la valeur et la mit aux pieds des apôtres.
Et en Acte 11, verset 24, qu'il était un homme de bien et plein de foi, et le Saint-Esprit lit à cela le fait qu'une grande foule fut ajoutée au Seigneur.
Acte 11, verset 24, « Car il était homme de bien et plein de l'Esprit-Saint et de foi. »
L'expression « rempli de l'Esprit-Saint » se retrouve plus souvent. En Exode 28, verset 3 et Deutéronome 34, verset 9, il est déjà parlé d'être rempli de l'Esprit de sagesse, et en Exode 31, verset 3, de « rempli de l'Esprit de Dieu ».
Exode 28, verset 3 « Et toi, tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'Esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le sanctifier. » Deutéronome 34, verset 9, « Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et les fils d'Israël l'écoutèrent et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Exode 31, verset 3. Et je les remplis de l'Esprit de Dieu en sagesse et en intelligence et en connaissance et pour toutes sortes d'ouvrages.
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'expression même « rempli de l'Esprit Saint » en Luc 1, versets 15, 41 et 67, en rapport avec Jean le Baptiseur.
Luc 1, verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Et il arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa.
Et en rapport avec son père et sa mère, et en Acte 2, verset 4,
ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer.
Acte 4, verset 8 et 31.
Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit. Et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse.
Acte 9, verset 17.
Et Ananias s'en alla et entra dans la maison, et lui imposant les mains, il dit, « Saul, frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint. »
Acte 13, verset 9 et 52.
Et Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit Saint. Et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint.
Et en Éphésiens 5, verset 18, en rapport avec Pierre et Paul seuls, et avec des groupes de disciples.
Éphésiens 5, verset 18. Et ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit.
Deux fois, il est dit qu'il serait rempli de l'Esprit Saint, Jean le Baptiseur et Paul, cinq fois qu'ils furent remplis et deux fois qu'ils étaient remplis, Pierre et Paul. Le dernier passage dans lequel revient cette expression, Éphésiens 5, verset 18, est une exhortation.
Soyez remplis de l'Esprit.
Si nous considérons avec soin tous ces passages dans leur contexte, nous voyons que être rempli de l'Esprit Saint est toujours en rapport avec un service pour Dieu, et même quelquefois avec un mandat spécifique et d'une longue durée, comme chez Jean le Baptiseur et Paul, mais la plupart du temps avec des services passagers, des prophéties ou des témoignages. Et quelle est la signification de ce terme? Je crois que Acte 1, verset 8 donne la réponse.
Vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins.
Quelle puissance ont les témoignages d'un Jean le Baptiseur et d'un Paul. Combien un Pierre, qui était craintif devant une servante, rend puissamment témoignage lorsqu'il est devant une grande multitude de Juifs de divers pays, et que, au chapitre 4, il dit avec hardiesse au chef du peuple qu'il n'y a de salut en aucun autre sinon dans le nom de Jésus qu'ils avaient rejeté et crucifié. Et au chapitre 4, verset 31, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit annoncent la parole de Dieu avec hardiesse. D'où vient-il que notre témoignage, tant relativement à l'Évangile annoncé à ceux qui ne sont pas encore convertis, que dans la présentation de la vérité de Dieu à des croyants, soit souvent faible et terne? Les croyants, dans les Actes des apôtres, n'employaient pas beaucoup de moyens spéciaux. Ils ne s'occupaient pas des meilleures méthodes d'évangéliser, ni ne créer des organisations pour leur confier une partie de l'évangélisation ou de l'enseignement des vérités divines. Ils agissaient simplement selon le mandat qu'ils avaient reçu de Dieu et rendaient témoignage dans la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas ici de l'habitation du Saint-Esprit dans le croyant. Depuis le jour de la Pentecôte, il habite en chaque croyant, aujourd'hui comme alors. Prier pour recevoir le Saint-Esprit, ainsi que le font certains croyants, est donc en contradiction directe avec la vérité révélée. Cependant, après la descente du Saint-Esprit et son habitation dans chaque croyant, nous voyons que certaines personnes ou certains groupes de personnes étaient en plus remplis de l'Esprit-Saint. Là encore, il n'est pas question de prier pour cela, bien que nous soyons exhortés en Éphésiens 5:18 à être remplis de l'Esprit-Saint. Nous trouvons seulement dans les Actes des apôtres qu'ils élevèrent d'un commun accord leurs voix à Dieu et le supplièrent de leur donner d'annoncer sa parole avec hardiesse. Et en réponse à leur prière, ils furent remplis de l'Esprit-Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Le vin, c'est-à-dire ce qui excite l'énergie naturelle et la joie du cœur, ne doit pas être trouvé dans le service de Dieu. Luc 1:15, Éphésiens 5:18, mais seulement la puissance et la joie du Saint-Esprit.
Luc 1:15, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit-Saint déjà dès le ventre de sa mère. Éphésiens 5:18, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit. Lorsque ceux que Dieu appelle sont conscients que rien de ce qui vient de l'homme naturel ne peut être d'aucune utilité dans l'accomplissement d'un service confié par Dieu, et qu'ainsi, sans recourir à des moyens humains, ils demandent à Dieu ce dont ils ont besoin, et se laissent employer par le Saint-Esprit, alors ils seront remplis de l'Esprit-Saint, et leur service en portera la preuve.
Quelle joie, quelle puissance et quelle gloire pour Dieu ne trouvons-nous pas en Élisabeth et en Zacharie, Luc 1, où, le jour de la Pentecôte et plus tard, Actes 2:11 et 13:52, ainsi qu'en Éphésiens 5:18-21.
Actes 2:11, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Actes 13:52, et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint. Éphésiens 5:18-21. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ.
Se laisser ainsi diriger par le Saint-Esprit n'est pas seulement nécessaire pour un service particulier. Romains 8:14 dit
« Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. »
Comment pouvons-nous vivre en accord avec la haute position que dans sa grâce Dieu nous a donnée, dans la position de fils de Dieu, si notre vie n'est pas dirigée par le Saint-Esprit? Comment serait-ce même possible? Romains 7 nous enseigne que nous n'avons aucune force, et, si nous avons appris à nous connaître tant soit peu nous-mêmes, nous savons qu'il en est ainsi. Toutefois, Dieu dit aussi,
« Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité » Deux Corinthiens 12:9.
Et les fils de Corée chantent dans le psaume 84:5,
« Bienheureux l'homme dont la force est en toi. »
Cette force, oui, cette source de puissance, Dieu le Saint-Esprit habite en moi. Cela ne suffit-il pas? La puissance ne peut-elle pas me donner la victoire sur tous les ennemis qui sont en moi ou autour de moi? Ma vie ne peut-elle pas ainsi être une vie victorieuse dans laquelle Dieu est glorifié? Mon service, le mandat que Dieu m'a confié, ne peut-il pas ainsi être un service plein de bénédictions pour d'autres et pour moi, à la gloire de Dieu? Ne puis-je pas savoir ainsi comment je dois agir en toutes choses, selon les pensées de Dieu, de sorte que je n'ai pas d'incertitude quant à ce que je dois faire? Oui, mille fois oui, le Saint-Esprit connaît parfaitement les pensées de Dieu et la volonté de Dieu. Corinthiens 2:10.
Mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu.
Il connaît mon cœur et exprime mes désirs devant Dieu. Romains 8:26-27.
De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu.
Il me donne les mots qui me permettent de communiquer à d'autres les choses spirituelles qu'il m'a révélées, pour que eux aussi puissent les posséder et en jouir. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 13.
Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels.
Et il est la puissance divine qui peut tout accomplir en moi, dans ma vie personnelle et dans mon service pour Dieu. Mais à quoi sert une puissance qui ne peut pas se déployer? À quoi sert-il que le Saint-Esprit habite en moi si je ne le laisse pas agir? Une locomotive peut être sous pression et cependant rester sur place parce que la vapeur ne peut pas développer sa puissance. Essayez de toute votre force de la faire avancer. Avec l'aide d'autrui et une bonne organisation, cela réussira peut-être. Mais le résultat est-il comparable à ce que le machiniste obtient en un tour de main? Il tourne une manivelle, et ce qui empêchait la vapeur de déployer sa puissance est ôté. La locomotive avance sans la moindre peine et tire encore derrière elle un long train. La manette est-elle dans la bonne position chez nous? Le Saint-Esprit peut-il déployer sans obstacle sa puissance, ou y a-t-il encore des obstructions? Notre moi est-il sur son chemin? Notre propre force, notre intelligence, notre capacité d'organiser, notre activité, notre zèle, peut-être même nos péchés. Si ces choses existent, ou seulement aussi le moindre atome de notre moi, le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous. Mais si nous sommes conscients d'être crucifiés avec Christ, Galates 2, verset 20, alors toute notre vie sera ouverte devant lui, et il la prendra tout entière sous son contrôle.
Galates 2, verset 20, « Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »
On entend souvent dire qu'il est difficile et parfois impossible de suivre la direction du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas toujours savoir ce qu'il veut. Si Dieu le Saint-Esprit habite en nous et que nous lui laissions la conduite de notre vie, ne nous fera-t-il pas alors connaître sa volonté d'une manière indubitable? Considérons notre parfait modèle, le Seigneur Jésus. Il fut mené par l'Esprit dans le désert. Luc 4, verset 1.
Or Jésus, plein de l'Esprit-Saint, s'en retourna au Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert.
Puis s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, verset 14.
Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour.
Par l'Esprit il enseignait, consolait, guérissait, versets 18 et 19.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur.
Par l'Esprit il enseignait, consolait, guérissait, verset 18-19, chassait les démons, Matthieu 12, verset 28.
Verset 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Matthieu 12, verset 28. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous.
Oui, par l'Esprit il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Hébreu 9, verset 14.
Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant?
Dans les Actes, nous trouvons que l'Esprit dit à Pierre,
Voilà, trois hommes te cherchent, mais lève-toi et descends et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Acte 10, versets 19 et 20.
Plus loin, l'Esprit Saint dit,
« Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, verset 2.
Les apôtres peuvent dire,
« Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. » Acte 15, verset 28.
Le Saint-Esprit empêche Paul et Silas d'annoncer la parole en Asie et ne leur permet pas de se rendre en Bithynie. Acte 16, versets 6 et 7.
Et ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, et étant venus jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
Paul dit,
« L'Esprit Saint rend témoignage de ville en ville que des liens m'attendent. » Acte 20, verset 23.
Les disciples disent à Paul par l'Esprit de ne pas monter à Jérusalem, voir Acte 21, verset 11.
Et étant venu auprès de nous et ayant pris la ceinture de Paul, il s'étant lié les pieds et les mains, il dit, « L'Esprit Saint dit ces choses, l'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le liront ainsi et le livreront entre les mains des nations. »
N'est-ce pas la direction expresse du Saint-Esprit d'une manière qui ôte toute incertitude pour un croyant simple? Et cela peut tout aussi bien se produire aujourd'hui qu'alors. Maintenant encore, le Saint-Esprit nous donnera clairement à connaître sa volonté, si seulement nous sommes simples et dépendants, si nous nous soumettons à la parole de Dieu, et que notre conscience est formée et éclairée par elle. Combien de croyants ont réalisé une telle direction dans leur vie? Le Saint-Esprit ne nous a-t-il pas souvent avertis, quand nous voulions agir selon nos propres pensées, par une voix intérieure qui nous troublait? Ne nous a-t-il pas souvent rappelé quelque chose que nous devions faire, mais que nous avions oublié? Ne nous a-t-il pas souvent donné des missions à remplir? Une note en bas de page. Un croyant racontait que, un soir, alors qu'il était déjà au lit, la pensée lui était venue de rendre visite à un homme qui avait professé appartenir à Christ, mais vivait dans le péché. Cette pensée devint si impérieuse en lui qu'il se leva et alla chez cet homme. À son coup de sonnette, ce monsieur lui ouvrit la porte et lui demanda ce qu'il voulait. Il expliqua alors franchement ce qui l'amenait, et il s'entendit dire, « C'est remarquable, car au moment où vous avez sonné, j'étais sur une chaise avec une corde au cou afin de me pendre. À l'ouïe de la sonnette, j'ai pensé que je voulais encore voir qui pouvait bien venir si tard. » Fin de la note. Veuille le Seigneur nous donner d'être toujours prêts à écouter et à obéir.
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14.